Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante série de la poussière à la gloire. Nous arrivons à l'étude numéro 7 et le titre sera « Nous devons nous laisser changer ». Dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 3, versets 12 à 14, l'apôtre Paul faisait allusion à ces faits, sachant que ses auditeurs les connaissaient aussi. Il a dit « Non que j'ai déjà reçu le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis ». Cherchant à le saisir, vu aussi que j'ai été saisi par le Christ. Frère, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant. Je cours droit au but, pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. L'apôtre Paul disait qu'il tenait et qu'il tendait surtout vers le but. Il essayait d'avancer vers le but. Il reconnaît qu'il n'était pas encore arrivé. La cité qu'il cherchait n'était pas encore en vue. Il était toujours sur le chemin du pèlerin, mais il tendait vers elle avec effort. Il y avait à grimper plus haut, mais avec la ténacité d'un pèlerin. L'apôtre Paul s'efforçait donc d'atteindre le but avant le crépuscule de sa vie. Chers amis, au début de ce chapitre, l'apôtre Paul nous parle du long voyage aride fait par lui. Il était passé par le désert de la religion légaliste. Il dit dans Philippiens chapitre 3, verset 3 jusqu'au verset 16, « Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions dans le Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Pourtant, moi-même, j'aurais de quoi avoir confiance dans la chair, moi davantage, moi, le circoncis, le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu des Hébreux, quant à la loi, pharisien quant au zèle persécutant l'assemblée, quant à la justice qui est par la loi, étant sans reproche. Il se souvient donc du genre de moralité obtenu en observant la loi de Moïse. Il dit être irréprochable quant à ce code légal. Il avait cette, on peut dire, il avait cette espèce de moralité issue de la loi extérieure. Une justice légale, mais le vaste désert du légalisme n'avait pas pu satisfaire la soif profonde que ressentait l'âme de l'apôtre Paul. Il représentait quelque chose de bien mieux. Il désirait connaître Dieu, sa personne. Il voyait une justice, on peut dire, bien au-delà de celle acquise par une simple obéissance aux lois. Il voyait l'existence d'une moralité profonde, émanant directement du caractère de Dieu, est transmis à son propre cœur, selon le verset 7 à 9. Mais les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause de Jésus comme étant une perte. Et je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. Et cela à cause duquel j'ai fait la perte de toutes et que je les estime comme étant des ordures, afin que je gagne Christ et que je sois trouvé en lui, n'ayant pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui est de Dieu, moyennant la foi. Toutefois, pour vivre cela, il doit rejeter tous ses efforts passés et futiles, il doit rejeter toutes ses œuvres religieuses. Celles-ci avaient été accomplies par sa force humaine et charnelle, et ne pouvait produire aucun changement intérieur. Verset 10. Pour le connaître, lui, Jésus, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, étant rendues conformes à sa mort. Car son désir était d'être rendu conforme à sa mort, à la mort de Jésus-Christ, de lui ressembler intérieurement. Le mot qu'utilise l'apôtre Paul et que nous traduisons par « conforme » n'a pas de traduction exacte. En fait, le mot grec est formé de trois autres mots expliquant avec beaucoup plus d'efficacité ce qu'exprimait l'apôtre Paul. Ces mots mis ensemble veulent dire « devenir exactement comme Christ et étant uni à lui ». Je répète, ces mots mis ensemble veulent dire « devenir exactement comme Christ étant uni à lui ». La modification résultant de cette union intime est entièrement la conséquence de cette alliance. Aucun effort charnel que nous puissions faire ne peut transformer intérieurement. Ce ne peut être que le fruit d'une communion intime. Pour résumer, l'apôtre Paul comprenait que toutes ces années d'obéissance scrupuleuse à la loi de Moïse n'avaient rien changé en son être intérieur. Seul Dieu pouvait faire ce qui est une œuvre de grâce, conséquence d'une communion profonde avec Christ. Chers amis, nous devons nous laisser changer. Un travail doit être accompli dans nos âmes avant que nous devenions capables d'apprécier pleinement la communion éternelle avec Dieu. Il nous aime et nous accepte tels que nous sommes. Le problème est de notre côté. Nous ne trouverons tout notre plaisir en lui que si nous sommes changés. La conformité aux lois et aux traditions ne pourra jamais changer notre être intérieur. Là où l'on rencontre véritablement Dieu. Donc, non seulement Dieu devra nous conduire dans sa gloire, mais il devra mettre sa gloire en nous. C'est le but de la sanctification. Le salut, c'est moi en Christ. Je suis en Christ dès que je suis sauvé. Je répète, le salut, c'est moi en Christ. Je suis en Christ dès que je suis sauvé. La sanctification, c'est donc Christ en moi. La gloire intérieure me vient de ce que Christ croit en moi. Il grandit en moi. Dans la rédemption, c'est le but de Dieu. Non seulement il justifie ceux qui l'appellent, mais il les rend conformes à l'image de Christ. Et c'est cette image de Christ grandissant dans le domaine de nos âmes qui détermine la mesure de gloire qui est en nous en tant que récipients de Dieu. Notre récipient ou vase, c'est notre âme. Cette gloire intérieure vient d'une seule chose, de ce que le caractère même de Christ prend forme dans notre personnalité. Cela se fait progressivement, un jour après l'autre, en marchant, en communion avec lui, en participant à sa nature et à sa gloire. Par cette communion avec lui, à laquelle j'aspire avec détermination, mon esprit absorbe littéralement la bonté et sa gloire. Nous sommes donc transformés par sa présence éclairant nos cœurs jour après jour. Proverbe chapitre 4, verset 18 nous dit « C'est le sentier des justes et comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. » Le chemin de tout croyant justifié par la foi doit le mener vers la lumière. Et cette lumière doit être plus radieuse alors que nous approchons du but. Quelle est la source de cette lumière? Pourquoi se trouve-t-elle au bout de notre chemin? En voici la merveilleuse raison. La lumière dans toute sa gloire resplendit sur la face de Christ. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est donc la face de Christ brillant sur nous, qui nous transmet la lumière. Si nous suivons cette lumière comme nous sommes appelés à le faire, nous nous trouverons face à face avec Christ. Il nous invite à une communion personnelle toujours plus profonde avec lui. Il veut que nous le connaissions. L'évangile est l'invitation de Dieu à tous les hommes, et j'ajoute, vous l'avez compris, à toutes les femmes, absolument partout. C'est une invitation à passer l'éternité en communion avec la majesté divine. Si nous sommes sauvés, nous sommes à l'abri de l'enfer. Mais nous sommes encore éloignés de notre but. Que Dieu fasse donc sortir chacun d'entre nous de cette lumière tamisée, nous donnant de lui une vision obscure, afin que nous puissions voir resplendir la pleine gloire de sa face. Voici donc le but vers lequel tendait l'apôtre Paul, et c'est également notre but à nous aussi. Seule la grâce peut nous y conduire. Il est vrai que Jésus nous aime tel que nous sommes, mais nous ne pouvons le connaître tel qu'il est, ni l'aimer comme il est digne d'être aimé, si nous ne sommes pas transformés intérieurement. Nous ne nous apercevons pas parce que Jésus nous rencontre à notre niveau. du fait qu'il s'abaisse à ce niveau inférieur, toute sa grandeur demeure invisible à nos yeux. Notre but est donc là, là où nous atteindrons sa pleine lumière. Quoique il soit obligé de se cacher à nous en partie maintenant, il désire ardemment se révéler davantage à son peuple. Ce doit être aussi notre désir, non pas afin qu'il nous aime davantage, non, mais afin que nous l'aimions, nous, comme il est digne d'être aimé, et cela, nous ne pouvons le faire tant que nous ne le voyons pas pleinement. Il nous faut donc voir et percevoir toutes les facettes extraordinaires de sa personne. Nous aimons ce que nous voyons, mais nous ne voyons tout simplement pas assez de lui. Une grande partie de son caractère nous reste cachée à cause de notre niveau de compréhension si lamentablement bas. L'apôtre Paul désirait ardemment mieux connaître Christ. Cela doit être aussi votre désir. Permettez-moi de faire une comparaison. Imaginons un adulte qui rechercherait la compagnie d'autres adultes. Celui-ci est merveilleusement électrique, s'intéressant à beaucoup de choses, très instruit dans les arts et dans les sciences. Il aime la musique, la peinture, la littérature, et sa soif de connaissances le pousse à s'informer des nouveaux développements techniques. Il est donc doué, il est très évolué dans toutes sortes de domaines. Quel genre de personne un tel homme choisira-t-il en amitié? Il me semble qu'il choisira quelqu'un de similaire. Supposons maintenant que dans son entourage, il n'y ait qu'un jeune enfant, peut-être même un bébé avec qui il puisse communiquer. Cet homme va s'abaisser au niveau du bébé, mais le bébé ne pourra pas s'élever au niveau de l'homme. Il sera donc content et satisfait de la compagnie de cet homme. Mais l'homme, lui, quoique appréciant et aimant l'enfant, ne pourra partager avec lui certains aspects de son être. Quoique cet homme aime l'enfant, celui-ci ne pourra combler totalement sa solitude. C'est une image de Dieu en nous. Il nous aime, il est vrai, tel que nous sommes. Mais nous sommes créés pour lui apporter quelque chose que nous sommes incapables de donner tant que nous n'aurons pas mûri. Nous pouvons poursuivre cette comparaison et penser à l'enfant qui aurait atteint ses 10 ans. Même à cet âge-là, un enfant ne peut assouvir la faim de partager que peut ressentir l'adulte. Pourtant, l'enfant est satisfait et ne soupçonne même pas que l'autre relation soit possible. Il ne peut percevoir les vastes domaines d'une âme d'adulte. Il est bien trop jeune pour cela. Une grande partie de la personnalité de l'adulte lui est donc cachée. Mais, petit à petit, poursuivant sa croissance, l'enfant sera un jour en pleine communion avec l'adulte. Donc, Dieu cherche une épouse mature. Nous avons été créés pour communier avec Dieu, ce qui est particulier à l'être humain. Il semblerait que les anges n'aient pas tout à fait cette même faculté, qu'il est triste que nous ne soyons pas ce potentiel et, à l'instar de l'apôtre Paul, que nous ne nous efforcions pas de le comprendre. Nous devons donc désirer connaître Dieu. Cette soif de sa connaissance devrait être une passion dévorante. Nous devrions chercher à le connaître plus que toute autre relation humaine et toute chose matérielle. Nous devons désirer le connaître plus que nous ne désirons quelque bénédiction que ce soit, plus que la solution à nos besoins. Job, le fameux Job, il disait qu'il désirait cela plus que la nourriture nécessaire à son corps, et ce devrait être aussi notre désir. Lorsque cette soif de Dieu se met en marche dans nos vies, nous chercherons et cherchons Dieu de tout notre cœur. À tous ceux qui le chercheraient, Dieu a promis « Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. » Et je me laisserai donc trouver par vous. » Jérémie, chapitre 29, versets 13 et 14. Voulez-vous vraiment connaître Dieu tel qu'il est? Selon sa promesse, il se laissera trouver. Il se laissera trouver si vous le cherchez de tout votre cœur. Il ne se révèle pas au tiède. Mais Dieu désire se laisser trouver par ceux qui le cherchent ardemment. Ceux-là auront en eux la gloire de Dieu. Je répète, mais Dieu désire se laisser trouver par tous ceux qui le cherchent ardemment. Et c'est ceux-là qui auront en eux la gloire de Dieu. Moïse a vu la gloire de Dieu. Regardons ceux qui, dans les Saintes Écritures, ont reçu cette gloire intérieure. Moïse a demandé à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Exode chapitre 33, verset 18. Dieu lui a répondu, « Tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Je te couvrirai donc de ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Exode chapitre 33, versets 20, 22 et 23. Dieu dit à Moïse qu'il pourrait le voir de dos, mais pas de face. Il a vu le reflet de la gloire de Dieu comme celle des dernières lueurs après le coucher du soleil. Ce que laissait Dieu après son passage, Ésaïe a également vu les pans de la robe de l'Éternel remplissant le lieu saint. Ces pans de robe qui le suivent ne sont pas fabriqués de tissu, mais ces pans de robe sont faits de gloire. Et cette substance ou cette énergie spirituelle présente après son passage fut absorbée par le visage de Moïse. Donc sa chair, elle fut remplie de la gloire de Dieu. Il est dit dans Exode chapitre 34, versets 29 et 30, « Moïse descendit du mont Sinaï, les deux tables du témoignage étaient dans la main de Moïse lorsqu'il descendait de la montagne. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait à la suite de son entretien avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse, et voici que la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. La gloire de Dieu peut donc pénétrer la chair d'un homme lorsque elle est à un niveau moins intense. Comme ce fut du reste le cas pour Moïse qui n'avait vu que les conséquences du passage de cette gloire. Mais ce rayonnement, absorbé par la chair, s'estompe très rapidement. Notre chair n'est pas faite pour véhiculer la gloire de Dieu. Elle ne peut la contenir. Ce sont l'esprit et l'âme de l'homme qui ont été créés pour contenir la gloire divine. En vertu de ses liens avec l'Esprit de Dieu, source de toute gloire, l'esprit humain est continuellement renouvelé à cause de cette union. Élisée a demandé à Élie une double portion de l'Esprit de Dieu et il l'a reçu. Élisée portait cette gloire dans son esprit et cela a un point particulièrement remarquable. 2 Rois, chapitre 13, versets 20 et 21, dit ceci. Élisée mourut et on l'ensevelit. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Il arriva qu'on ensevelissait un homme et voici qu'on fit venir la troupe. On jeta l'homme dans la tombe d'Élisée et l'homme alla toucher les ossements d'Élisée et là il reprit vie et se redressa sur ses pieds. Donc les os d'Élisée étaient tellement pénétrés de la gloire de Dieu que celle-ci ressuscita un mort. L'onction de Dieu, enfermée dans le squelette d'Élisée, ramena un mort littéralement à la vie. Dans les catacombes à Rome, au troisième niveau, dans celle portant le nom de Sainte Cécile, il y a une fresque sur l'un des murs. Celle-ci représente un récipient débordant d'huile, l'image des croyants de l'époque, remplis du Saint-Esprit, enterrés en ce lieu. Beaucoup sont morts, déchiquetés par des bêtes féroces au Colisée, où ils furent brûlés vifs comme des torches vivantes, éclairant les festivités nocturnes des empereurs romains. Mais ils moururent dans la foi, la grâce et la gloire de Dieu sur eux. L'histoire nous dit que c'est en chantant des louanges à Dieu qu'ils sont morts. Certains prêtres baptisés dans le Saint-Esprit, guidant les pèlerins dans les catacombes, rapporte qu'il y a souvent une nuée de gloire en cet endroit. Donc, après plus de 2000 ans, les ossements sont encore empreints d'une onction perceptible. Lorsque Jésus se tenait sur le mont de la Transfiguration, Dieu permit que se manifeste un miracle. Il permit la gloire intérieure de l'Esprit de Christ, qu'elle soit vue extérieurement. Elle devint donc visible aux yeux des autres. Et 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, l'apôtre Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et là, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Saint Matthieu, chapitre 17, versets 1 et 2. Il est important de remarquer la succession des événements lors de ce miracle. En premier lieu, le visage de Jésus se mit à resplendir, puis ses vêtements commencèrent à briller lorsque la gloire de son âme fut découverte. D'abord, la chair ou la peau de son visage brillait, puis ensuite ses vêtements qui touchaient le corps de notre Seigneur étaient imprégnés d'une telle gloire qu'ils se mirent à briller. On peut donc voir un miracle semblable dans la vie de l'apôtre Paul lors du grand réveil à Éphèse. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de l'apôtre Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les malades les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Actes chapitre 19, versets 11 et 12. L'onction en Paul était devenue telle que des étoffes ayant touché son corps avaient le pouvoir de transmettre guérison et délivrance. Mais ces tissus ont dû être un certain temps en contact du corps de l'apôtre Paul. Par le contact corporel prolongé, ses vêtements étaient tellement pénétrés de la gloire de Dieu qu'ils apportaient la guérison aux malades qui les touchaient. L'apôtre Pierre fit aussi l'expérience de la gloire de Dieu. Et nous pouvons le voir dans Actes, chapitre 5, versets 14 et 15. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des litières et des grabats. Cela afin que, lors du passage de l'apôtre Pierre, son nombre, au moins, puisse couvrir l'un d'eux. Couvrir de son nombre, cela se dit en grec « episkiazo », non pas l'ombre produite lorsque un objet passe entre nous et le soleil. Cela n'a rien à voir avec le soleil naturel. Mais il s'agit ici de la nuée de la gloire de Dieu. Cette gloire sortait de l'apôtre Pierre, coulant à flot, portant une telle puissance qu'elle guérissait lors de son passage. Combien cela est merveilleux! Élisée portait donc cette gloire dans ses os, et elle se trouvait dans le corps de l'apôtre Paul à tel point que ses vêtements en étaient chargés et de l'apôtre Pierre émanait une gloire perceptible. Pierre annonce la gloire du mouvement des derniers temps, celui de l'autel d'or. Souvenez-vous de ce mot « episkiazo » comme étant la définition grecque de ce qui arriva à l'apôtre Pierre. C'est la terminologie du Saint-Esprit de ce qui devrait nous arriver si nous avançons avec Christ. Nous aussi, nous devrions avoir un episcopatio, une nuée de gloire née de notre communion avec Christ. Comment cette chose si merveilleuse a-t-elle pu arriver si vite à l'apôtre Pierre? J'ai réfléchi à ce miracle de transformation. 2 mois auparavant, Jésus avait été crucifié. Pour l'apôtre Pierre, cette nuit terrible avait été une défaite spirituelle inimaginable, peut-être la pire des défaites pour un homme. Il avait renié Jésus, et à cause de sa peur, il avait renié Jésus avec force. Cela s'était passé quelques semaines auparavant, et maintenant, au chapitre 5 des Actes des Apôtres, nous voyons l'expérience vécue de la manifestation victorieuse de la puissance de Dieu que la plupart d'entre nous ne connaissent pas malgré des années de fidélité au Seigneur. J'ai questionné le Seigneur à ce sujet et il m'a répondu que la vieille nature de l'apôtre Pierre avait été complètement brisée par cette défaite. La gloire de Dieu pouvait donc paraître au travers des craquelures de ce récipient. Et voilà comment cela se passa pour l'apôtre Pierre. Et de cette même manière, cela nous arrivera aussi. L'apôtre Pierre désavoua Jésus qu'il aimait, et cela pour une raison spécifique, car il craignait pour sa propre vie. Jusqu'à ce moment-là, l'apôtre Pierre ne s'était pas rendu compte à quel point sa propre vie lui était précieuse. Cette expérience lui fit donc perdre sa confiance en lui-même, en sa virilité. Sa chair était aussi faible que celle des autres. Et plus jamais il ne pourrait avoir confiance en lui-même, car il avait failli. En vérité, toute chair est vouée à l'échec, car la chair, elle, n'a d'autre destinée que celle de la faillite. La plupart d'entre nous ne comprendront jamais cela, et voilà tout le problème. Mais l'apôtre Pierre, il l'a compris. Il a prédit toute confiance en sa propre capacité de faire quoi que ce soit pour Dieu avec uniquement ses forces humaines. Il a compris. Et c'est alors qu'il fut prêt à recevoir les capacités venant de Dieu lui-même. Chers amis, Jésus a pardonné à l'apôtre Pierre et dans sa grâce, il l'a rétabli. Et plus tard, à la Pentecôte, il fut glorieusement rempli de l'Esprit de Dieu. Il descendit de la chambre haute pour aller avec hardiesse prêcher l'Évangile dans les rues de Jérusalem. 3000 âmes furent sauvées. Et quelques jours plus tard, Pierre et Jean ont vu un paralytique à la porte appelé la Belle. Et cet homme fut guéri. Ce miracle attira tellement l'attention que l'apôtre Pierre prêcha de nouveau. Et cette fois-ci, les croyants furent au nombre de 5 1000. Le commandant du temple et les Sadducéens s'interposèrent et arrêtèrent Pierre et Jean. Ils questionnèrent l'apôtre Pierre au sujet de ce miracle et le menacèrent. Et une fois encore, l'apôtre Pierre fut rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est venu sur Pierre encore beaucoup plus puissamment qu'auparavant. L'apôtre Pierre annonça donc l'évangile à tous ceux qui l'avaient arrêté, et ceux-ci lui défendirent absolument de prêcher désormais au nom de Jésus. Pierre a répondu, « Voyons, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ?» Actes chapitre 4, verset 19. Et après d'autres menaces, les hommes religieux ont relâché Pierre et Jean. Pierre sentait qu'il était donc nécessaire de prier et il rassembla tous les disciples pour une réunion de prière. Avec ardeur, ils invoquèrent Dieu à cause de la forte persécution dont ils faisaient l'objet. Quelle était cette requête ? C'était la protection. Est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce que c'était la délivrance? Eh bien non. Actes chapitre 4, verset 29 à 31 nous dit « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. » Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le saint nom de ton saint serviteur Jésus. Leur prière était aussi simple qu'on peut dire que dépourvue d'égocentrisme. Ils ne pensaient pas à eux, mais ils pensaient aux âmes perdues. Seigneur, donne-nous plus de hardiesse. Et l'apôtre Pierre n'a pas demandé la sécurité, mais il a demandé de l'hardiesse. Il n'a pas demandé à Dieu de le délivrer de la persécution face à elle. Eh bien, face à elle, il voulait seulement du courage, encore plus de courage. L'apôtre Pierre ne pensait plus à lui-même. Il avait complètement perdu ou oublié ses craintes. Sa vie n'était plus ce qu'il avait de plus cher. La priorité maintenant dans sa vie était de servir Dieu avec efficacité. C'est là que l'apôtre Pierre et les autres furent de nouveau merveilleusement rempli de l'Esprit Saint. C'est après cette troisième effusion que l'apôtre Pierre a fait l'expérience de la nuée de gloire. Sa priorité, le centre même de son attention, était uniquement de servir son maître, Jésus-Christ. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit « Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. » Saint Matthieu chapitre 6, verset 22. L'œil de l'apôtre Pierre était donc fixé à 100% sur Christ. Son corps s'illumina. Chers amis, notre cœur ne doit pas être partagé. David a demandé à Dieu, unis mon cœur à la crainte de ton saint nom. Psaume 86, verset 11. Il y a dans nos cœurs beaucoup de chambres. une partie de notre cœur peut appartenir au Seigneur, tandis qu'une autre partie nous appartient à nous. Mais lorsque nos cœurs sont unis, non partagés, quand chaque partie lui est abandonnée, alors notre œil est en bon état. Chaque chambre ou partie, lorsqu'elle lui devient soumise, est maintenant vidée du moi. Le moi n'existe plus. Ce n'est que alors qu'elle pourra être remplie de l'Esprit Saint de Dieu. C'est un peu comme cela que l'on est de plus en plus habité par l'Esprit Saint. Chaque fois que l'apôtre Pierre était à nouveau rempli du Saint-Esprit, c'était après avoir abandonné un peu plus de sa propre vie. Son cœur était devenu entièrement soumis à Dieu, et chaque partie lui était abandonnée. Il avait donc un but suprême, un but absolu. C'était obéir à Jésus, son seul Seigneur. Puissions-nous, chers amis, être brisés, totalement centrés sur Dieu, comme le fut l'apôtre Pierre et comme l'était également l'apôtre Paul. Puissions-nous faire abstraction de nos propres vies, ne recherchons plus nos propres intérêts, mais uniquement ceux de Christ. Je répète, puissions-nous faire abstraction de nos propres vies, ne recherchons plus nos propres intérêts, mais uniquement ceux de Christ. Ce n'est pas un seul Pierre ou un seul apôtre Paul que Dieu désire, mais Dieu désire une génération de Pierre et de Paul. Ces personnes ne sont pas en elles-mêmes parmi les grands, mais ce sont des personnes normales, s'étant complètement données à un grand Dieu. Nous terminons cette étude avec Ésaïe, chapitre 60, qui nous dit que dans les derniers temps, la gloire de Dieu se lèvera sur tout son peuple. L'heure vient où cette gloire se manifestera à travers un peuple soumis. Ce merveilleux episcopatio, cette nuée glorieuse, percera par les fentes d'un peuple qui est brisé et faible, apportant la guérison et la délivrance à un monde anéanti par le péché. Nous avons tous nous avons notre but. Puissions-nous, chers amis, grimper à son sommet. Puissions-nous comprendre que chaque pas que nous faisons et qui nous approche de la lumière de sa face, c'est un pas qui est perdu s'il ne nous approche pas de la lumière. Je répète pour que ce soit bien compris. Puissions-nous, chers amis, comprendre que chaque pas que nous faisons et qui ne nous rapproche pas de la lumière de sa face, c'est un pas qui est perdu. Ce pas peut sembler bon à l'homme, il peut même être approuvé par la communauté religieuse ou par les amis. Mais à la lumière de l'éternité, il n'aura rien transformé dans notre intérieur si notre cœur reste partagé. Chers amis, nous allons terminer par la prière. Prions. Oui. Je veux t'aimer, Seigneur. Tu es ma force, tu es mon bouclier, tu es mon refuge et mon libérateur. Tu es l'incarnation de tout ce que je pourrais souhaiter et aimer. Mon Dieu, mon aide, je veux aimer selon tes dons et selon mes limites. C'est sans doute moins que ce qui conviendrait, mais ce n'est pas moins que ce dont je suis capable, car je ne peux pas t'aimer aussi fort que ce que je devrais. Bien sûr, je devrais davantage, mais en vérité, jamais autant que tu ne le mériterais vraiment. Toute l'imperfection de ce qui est mien, tes yeux l'ont vu, mais cependant, ils sont tous inscrits dans ton livre, ceux qui font ce qu'ils peuvent, même s'ils ne peuvent pas faire tout, absolument tout, ce que, en vérité, ils devraient accomplir. Oui, j'ai compris maintenant, plus que jamais, que je dois me laisser totalement changer par toi, Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur. Et cela est devenu maintenant mon plus grand désir. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études, pas toujours très faciles, mais le Seigneur vous bénit par ces études, croyez-moi, comme il me bénit et qu'il m'a béni également. Soyez donc bénis, c'est mon désir le plus profond de mon cœur, et sachez que le Seigneur vous aime. À demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir.